VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, un protestataire tué par la police aujourd'hui, selon l'AFP, lors de nouvelles manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza dans les quartiers contestataires de Bujumbura, la capitale. Pour sa part, le chef de l'État a déclaré hier que la sécurité règne dans la quasi-totalité du pays. Anne Albertson.
S'adressant à la nation pour la troisième fois depuis l'échec du coup d'État le 13 mai, Pierre Nkurunziza a assuré que la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire burundais. Ce qu'il qualifie d'insurrection ne toucherait que quatre quartiers de Bujumbura. Il a aussi mis en garde la presse. Pour l'opposition et la société civile, le report des élections législatives et communales au 5 juin ne change rien et les deux groupes entendent continuer à manifester contre le troisième mandat. Plusieurs quartiers de Bujumbura sont, depuis le 26 avril, le théâtre d'un vaste mouvement de contestation. Hier, des policiers armés de Kalachnikov ont investi le quartier de Musaga. À Nyakabiga, un soldat a été accidentellement tué par des tirs de policiers. Les violences quotidiennes ont fait plus d'une vingtaine de morts au Burundi.
Suite aux violences et aux coups d'État manqués dans le pays, le gouvernement burundais a décidé de reporter d'une semaine jusqu'au 5 juin les élections législatives et communales. La campagne électorale est donc prolongée jusqu'au 2 juin, mais en l'absence de médias indépendants et vu la tension sur place, cela est-il réaliste? Idriss Fall a posé la question à Pacifique Ninina Azoué du collectif contre un troisième mandat à Bujumbura.
Le report est une bonne chose parce que c'était irréaliste de penser qu'on aurait des élections la semaine prochaine. C'est irréaliste d'autant plus que les partis de l'opposition ne font pas campagne, il n'y a pas de sécurité pour les leaders de l'opposition et le CNDD est le seul pratiquement à faire campagne à ce moment. Ce serait irréaliste s'il avait maintenu le calendrier actuel.
Le report d'une semaine, vous pensez que cela suffira?
Cela ne suffit pas non plus parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les différents partenaires intéressés par ces élections. Est-ce que dans une semaine, l'opposition pourra organiser sa campagne? Est-ce que dans une semaine, le gouvernement pourra trouver les fonds pour financer ces élections du moment que certains partenaires ont décidé de ne plus continuer à financer ce processus électoral? Donc, je trouve que tout cela est irréaliste. Il est important qu'il y ait d'abord un débat sur les défis d'aujourd'hui, sur les questions qui se posent en ce moment.
Presque toutes les radios privées ne peuvent plus émettre. Donc, comment va se dérouler la campagne?
C'était incroyable qu'on puisse faire une campagne lorsqu'il n'y a pas de débat sur des médias indépendants, libres, lorsqu'il n'y a que la seule radio officielle du gouvernement qui ne fait que diffuser les messages du président Nkurunziza. C'est inconcevable et incroyable qu'on passe à une élection dans cette situation pour que les conditions sécuritaires ne le permettent pas en ce moment.
Pacifique Ninina Azoué du Forum de la Société Civile à Bujumbura. La guerre contre Boko Haram maintenant. Au Nigeria, près de 500 officiers et soldats sont jugés pour indiscipline, quelques mois après la condamnation à mort de 66 militaires accusés de mutinerie. Bagasikoura.
Le porte-parole de l'armée nigériane, Sani Ousmane, n'a pas précisé les charges retenues contre 473 soldats traduits devant une cour martiale. Il a simplement déclaré que l'accent est mis sur la discipline et le professionnalisme. Un de leurs avocats, Maître Femi Falana, affirme que certains sont accusés de mutinerie, d'autres de lâcheté et désobéissance. Maître Falana avait défendu 54 soldats condamnés à mort en décembre et 12 autres en septembre. Le haut commandement militaire n'a pas encore donné son feu vert pour que ces soldats soient passés devant le peloton d'exécution. L'année dernière, des soldats postés à Maïdougouri avaient refusé d'aller combattre les islamistes, mettant en avant leur manque d'équipement. Leurs épouses avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leur mari comme chair à canon face à des insurgés mieux armés.
En Guinée, le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, ne cache pas sa déception après sa rencontre d'hier avec le président Alpha Condé. Salwa Jafari nous dit pourquoi.
C'est moi seul qui ai parlé. J'ai été déçu qu'on n'ait pas d'échange. Je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter, je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance et moi, en tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. » Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre, avant la tenue des élections locales. L'opposition, de son côté, dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016, avant l'élection présidentielle, par crainte que le personnel communal nommé par le pouvoir n'influence le scrutin en faveur du régime en place.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
À la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra, au Ghana, les dirigeants ouest-africains ont rejeté une proposition visant à imposer une limite au nombre des mandats présidentiels dans les pays membres. Décision due à l'opposition du Togo et de la Gambie, seul État de la communauté qui autorise un nombre illimité de mandats présidentiels. Pour une analyse, Nathalie Barge a contacté Magloire Kouakouvi, professeur à l'université de Lomé au Togo.
On ne peut pas dire que dans nos us et coutumes, il n'y a pas la reddition de comptes. Il y a la reddition de comptes, mais dire qu'on va avoir des présidents à vie, ça n'a aucun sens sur le plan de la modernité. Je pense qu'il y a beaucoup de corruption qui sont à la base de certaines décisions. Parce que je ne pense pas que si l'on passait cette décision au vote pour la population, ce serait le mandat illimité qui serait accepté.
Comment explique-t-on le fait finalement que ce soit les chefs d'État eux-mêmes qui prennent ce type de décision pour eux-mêmes?
Comme a dit quelqu'un en Afrique, la politique c'est le plus court moyen de s'enrichir. Parce que il n'y a aucun contrôle du peuple sur l'enrichissement du président de la République. Donc, pour peu que les pays aient des atouts qui permettent de ramasser de l'argent sans rendre compte à qui que ce soit, on peut décider de rester en place à vie.
Quel signal envoie la CEDEAO avec ce type de décision?
Ça ne tiendra pas la route. Parce que les peuples ne sont pas dupes de la situation. Le Burkina Faso fait partie de la CEDEAO. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. Et je ne crois pas que les peuples béninois, sénégalais et burkinabais soient d'accord pour que les mandats présidentiels ne soient plus limités.
Le professeur Magloire Kouakouvi, président de la commission épiscopale Justice et Paix au Togo. Afrique de l'Ouest toujours, forte hausse des cas d'Ebola la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Des précisions avec Claire Morin-Gibourg.
35 nouveaux cas ont été rapportés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone, contre 9 seulement au cours de la semaine précédente. C'est la plus forte hausse depuis plus d'un mois. La Guinée, où l'épidémie a débuté fin 2013, a été la plus durement touchée la semaine dernière, avec 27 cas rapportés contre 7 la semaine précédente. Si le Libéria voisin a été déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier, ce n'est pas le cas de la Sierra Leone qui a déclaré 8 nouveaux cas. Et pour la première fois en 5 semaines, un professionnel de la santé qui travaillait dans un centre de traitement d'Ebola près de Freetown a été déclaré positif au virus de la fièvre hémorragique.
Actualité américaine, l'administration Obama a publié hier plusieurs documents trouvés lors du raid de 2011 au Pakistan, au cours duquel les forces américaines ont tué le leader d'Al-Qaïda, Osama Bin Laden. Les détails avec Eddie Isango.
Parmi les documents déclassifiés, du courrier personnel adressé aux membres de la famille Bin Laden, une liste des livres en anglais retrouvés dans la parcelle, diverses études, des programmes d'ordinateurs et autres manuels techniques et des documents d'autres groupes militants. Les 5 dernières années de sa vie, Bin Laden était hanté par une appréhension au sujet de la technologie avancée utilisée pour les traquer. Il avait donné à sa famille des instructions détaillées sur comment éviter de donner aux agents américains des pistes qui pouvaient conduire jusqu'à lui.
Et pour terminer, le président Barack Obama reçoit son homologue tunisien Beji Caïd Essebsi aujourd'hui à la Maison-Blanche. Au programme de leur discussion, une possible augmentation de l'aide militaire et économique des États-Unis à la Tunisie, qui fait face à une instabilité régionale et aussi à un fort chômage des jeunes. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et bien sûr sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.